bien à vous saluer dans le Seigneur, mes amis, en vous demandant ce matin, comment va votre âme? C'est vrai. Vous allez peut-être se dire, mais comment va la sienne? Bien, vous savez, venez,
ça a les mains, hein? Oui, je vous posais cette question, comment va votre âme ce matin? Et vous m'avez dit que ça avait l'air d'aller. Mais vous pouviez aussi me demander comment va la vôtre. Eh bien, je dois vous dire que je ne termine jamais une mission dans un état d'âme euphorique. Car je me souviens toujours du Seigneur qui, au terme de sa carrière, la dernière nuit qu'il a passée avec les siens, il a pleuré. Et il a dit, s'ils n'étaient pas venus et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, leur péché demeure. Et je pense aussi à l'apôtre Paul, quand il parlait aux anciens d'Éphèse, lui pouvait leur dire, je ne vous ai rien caché des choses qui pouvaient vous être utiles. Je suis vraiment naître du sang de vous tous. Et alors, cette nuit encore, je me disais, mais est-ce que vraiment je ne leur ai rien caché des choses qui pouvaient leur être utiles? Vous me direz, mais vous avez assez de temps pour nous dire toutes les choses qui pouvaient nous être utiles. Vous avez même dépassé votre temps hier soir. N'est-ce pas? Eh bien, je vous en demande pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes humains et même si je suis fils d'horloger et que j'aime la ponctualité, être à l'heure et me tenir au temps qu'on m'a donné, eh bien, il y a des fois des moments où, peut-être aussi par la fatigue, on se répète, on revient un peu sur ci, sur ci. Et je vous en demande pardon si je vous ai tué hier soir. Mais, ce matin, je me suis aperçu qu'au fond, nous n'avions donné que quelques jalons sur ce grand thème, les ennemis du chrétien. Mais, comme nous vous le disions, nous voulons continuer de prier pour que les fruits de cette conférence soient manifestés dans vos assemblées, dans vos communautés, dans les jours qui viendront. Oh, n'allez pas dans ces lieux-là en disant, en revenant gonflé de cette conférence et en parlant des hommes. Taisez-vous sur les hommes. Mais que par la grâce de Dieu, ceux qui vous côtoieront se rendent compte que vous avez entendu la parole de Dieu, que vous l'avez prise au sérieux, et que quelque chose est changé, et que quand les gens du monde entreront dans votre église, ils s'apercevront qu'il y a le recueillement, le silence, qu'on ne doit pas faire le silence par le premier cantique, mais que quand on est réuni autour du Seigneur, on n'est pas là pour bavarder d'abord, mais pour être recueilli, surtout quand c'est l'heure de l'adoration, l'heure du culte. Après, vous pourrez parler. Après, vous pourrez partager tout ce que vous voudrez. Mais nous devons retrouver la dimension du silence dans nos communautés, dans nos églises. Et ce n'est pas le premier cantique qui doit mettre fin à nos conversations. Nous devons être recueillis devant le Seigneur. Et c'est dans le silence que nous devrions pouvoir commencer. Et il y aurait aussi d'autres choses au sujet du monde et de la mondanité. Quand quelqu'un entre dans nos communautés, spécialement pour le culte, il devrait aussi pouvoir s'apercevoir que c'est pas une salle comme les salles du monde, comme une salle de concert, où chacun y est avec sa toilette, avec sa tenue, pour se faire remarquer, mais que nos sœurs sont couvertes aussi, qu'elles n'essayent pas de montrer leur dernier chapeau ou leur dernière robe, mais qu'elles sont là pour le Seigneur. Et c'est ainsi que les jeunes qui viennent pour la première fois seraient saisis. On ne peut pas demander à des inconvertis d'être comme des sœurs dans le Seigneur, mais j'ai toujours vu que des inconvertis, quand elles vont dans un milieu où certaines choses bibliques sont vraiment respectées, non pas parce que on veut absolument maintenir des coutumes qui ne sont pas de notre temps, mais parce qu'on sait que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne, eh bien, ces jeunes filles, sans même qu'on le leur dise, quand elles reviennent la seconde fois, elles ont déjà cette pensée de se couvrir. Elles ont aussi compris que peut-être, si elles se convertissent, elles ne voudront pas mettre du rouge à lèvres sur la coupe du Seigneur. Il y a des choses qui se comprennent immédiatement quand il y a un témoignage que nos communautés, nos assemblées, ce ne sont pas des communautés ou des clubs religieux où on peut faire ce que l'on veut, mais où le Seigneur est réellement présent. Mes amis, je sais très bien, nous n'avons pu donner que quelques jalons, mais je veux croire que le Seigneur prolongera ces lignes et que ces simples pistes de réflexion que nous vous aurons données dans la dépendance du Seigneur et mon frère et moi-même, vous les défricherez vous-même et vous en ferez de larges avenues. De larges avenues pour que il y ait quelque chose qui change aussi dans nos communautés, dans nos assemblées et qu'on se rende compte que le Seigneur est présent au milieu de nous. Qu'une âme inconvertie sentirait cette puissance, puissance de la prière si nos sœurs aussi, même dans le silence, et puis aussi puissance et qui porte les frères qui ont le ministère de la parole à apporter dans les communautés. Tout pourrait être changé, tout pourrait être transformé. Mes bien-aimés, je laisse l'Esprit du Seigneur vous rappeler ce qui sera essentiel pour que dans ce Québec, le Seigneur soit glorifié, non seulement par chacune de nos vies, mais glorifié dans nos communautés. Les ennemis du chrétien. Je voudrais simplement maintenant faire une courte synthèse des points principaux que nous avons vus. Nous avons nommé 4 ennemis. Satan, le monde, la chair et la mort. Le dernier ennemi, lisons-nous dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais ce que nous avons pu voir déjà, c'est que si nous revenons au texte que nous avons lu 2 fois, et que j'espère vous avez relu et que vous relirez de Exode 23, tous ces ennemis que nous connaissons peuvent être vaincus et ont été vaincus par le Seigneur Jésus. Ils sont plus forts que nous. Nous ne pourrons jamais les vaincre par nos propres forces. Mais si vous reprenez et si vous croyez les textes de l'Écriture, comme cela a été lu dans Exode 22, le Seigneur lui-même disait à Israël, par la bouche de Moïse, « J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. » Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Et nous avons vu que c'était le Seigneur lui-même. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et nous avons vu toute la liste d'ennemis qui seraient vaincus par le Seigneur. Et nous avons vu aussi les bénédictions seraient accordées à ceux qui marcheraient ainsi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, verset 25, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de des jours. Eh bien, je veux croire que vous allez continuer de méditer ces paroles et que le Seigneur vous accordera ces quatre bénédictions dont il a été question et que nous n'avons fait au fond que mentionner en passant. Puis, nous avons tout d'un coup saisi qu'il serait peut-être bon de nous souvenir de ce que c'était qu'un chrétien. Les ennemis, nous les avons vus. Satan, le monde, la chair, et puis la mort. Et nous allons dire quelques mots là-dessus à la fin. Comment cet ennemi, la mort, peut être vaincu? Elle a déjà été vaincue. Mais comment cette mort ne doit plus nous effrayer? Mais mes amis, ce que nous voulons demander au Seigneur ce matin, c'est que nous soyons réellement sérieux. Et que cette parole ait un accès dans notre cœur. Bien, nous supplions de lier Satan et de l'empêcher d'apporter sa bénédiction à ceux que tu veux bénir, sa guérison à ceux que tu veux guérir, de l'amour du monde que tu veux délivrer des convoitises du monde. Seigneur, nous te supplions que par ton esprit, le combat soit mené dans notre chair pour qu'elle soit maintenue à la croix, réellement crucifiée, et que sachant nous juger nous-mêmes, jour après jour, de toutes les tendances que tu nous auras fait découvrir dans nos cœurs, en ce moment, nous puissions envisager la mort à quelque moment qu'elle vienne dans une paix totale. Et que pour nous, nous soyons dans les dispositions de l'apôtre Paul qui pouvait dire pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Car être auprès de Dieu, c'est de beaucoup le meilleur. Et je sais que Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par la mort. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Seigneur, nous voulons nous soumettre simplement à ta volonté et dans ces derniers moments, nous nous abandonnons encore à toi. En te suppliant une fois de plus, que par le sang de Jésus, l'ennemi soit vaincu et que l'amour pour ta personne, oh Jésus, triomphe de tout ce qui va créer du monde et que, ayant reçu l'amour du Père dans nos cœurs, cet amour du Père qui n'est pas quelque chose mais qui est le Fils du Père, l'amour du Père étant réellement en nous, nous puissions triompher des convoitises du monde, pouvant dire, comme Jésus le disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ô Seigneur Jésus, donne-nous ce matin de savoir nous juger individuellement de tout ce que Satan pourrait trouver dans nos cœurs pour y établir une tête de pont. Et faire de nous, tout en étant des sauvés, des vaincus dans notre témoignage. C'est le cri de notre cœur. La seule gloire. Amen. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. façon que vous trouvez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, combien de fois? 176 fois. Il apparaît comme un serpent dans la Genèse. Mais dans l'Apocalypse, comment est-il? Un grand dragon. Et au travers des pages bibliques, et spécialement dans les évangiles, vous le voyez aussi comme un loup qui voudrait dévorer les brebis, et dans l'épître de Pierre, comme un lion rugissant, mais aussi comme l'ange de lumière dans les épîtres de Pierre. Eh bien, cet ennemi qui a plusieurs noms, le serpent ancien, Bélial dans l'Ancien Testament, ce n'est pas autre chose que le nom qui était donné au diable à Satan. On le retrouve une fois dans le Nouveau Testament, au chapitre 6 de la deuxième aux Corinthiens. Vous ne pouvez pas vous mettre sous un joug mal assorti avec les infidèles. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Bélial. On ne peut pas servir deux maîtres. On appartient à l'un ou on appartient à l'autre. Alors maintenant, plus d'excuses au sujet de Satan. Je dis que si on a fait une caricature de tous les ennemis de Dieu, pour qu'on ne croit pas à l'existence du diable, et que certains ont écrit un livre sur liquidation du diable, il ne faut pas croire au diable, on l'a liquidé, c'était quelque chose de moyenâgeux, cette croyance. Eh bien, nous disons, oui, il y a une liquidation du diable aussi pour les chrétiens. Mais pas parce qu'il n'existe pas. Mais parce qu'en quelque sorte, si nous restons en Christ, le diable est liquidé, en quelque sorte. Oui, dans ce sens-là. Vous ne pouvez plus vous excuser en disant, c'était Satan. C'est ça qui serait faux. Et je demande au Seigneur, que vous ayez bien saisi cela. Ne vous excusez plus en disant, c'était Satan. Oui, c'était Satan. Mais vous n'aviez pas à être vaincu. Car Jésus avait vaincu l'homme fort et pillé ses biens. Vous n'êtes plus sous la puissance de Satan, mais vous êtes sous la puissance du sang de Christ. Et rien ne peut vous nuire, puissiez-vous saisir cela dans une foi totale. La victoire de Jésus sur Satan. Et maintenant, ne vous justifiez pas au sujet du second ennemi, le monde, mais le monde, on est dans le monde. Oui, nous vous avons donné certains sens du moment, le monde au sens de la création, au sens cosmologique, le monde au sens historique, c'est-à-dire les hommes sur la terre, ce monde que Dieu a tant aimé. Mais nous vous avons montré aussi le monde dans son sens moral et religieux, ce système, cet arrangement des affaires humaines sur la terre, système politico-religieux où Dieu n'a plus de place et où le prince de ce monde règne et influence les pensées des hommes. Et c'est pourquoi, mes amis, vous devez laisser l'Esprit de Dieu travailler dans vos pensées pour que ce soit une transformation, réellement une régénération, que vous n'ayez plus ces pensées et qui vous domine. On ne peut pas empêcher les mouches de voler, mais on peut les empêcher de se poser sur nous. Les mouches volent, les mouches viennent sur nous. Ce sont toutes ces mauvaises pensées. Ne pensez pas qu'un jour vous n'aurez plus ces mauvaises pensées, mais vous pouvez les chasser. Vous pouvez dire arrière de moi Satan. Et puis, sur ces pensées, eh bien, vous mettez la mort. Et vous laissez le Saint-Esprit captiver vos pensées. Et alors, ce sont vos paroles qui seront aussi changées. Ce sont vos actions qui seront aussi changées. Et vous serez libérés de ces péchés en pensée. Parce que moi, ma conviction de péché, la première que j'ai eue, c'est une conviction de péché à cause de mes pensées. J'avais 13 ans et demi quand je me suis converti. J'étais fils de parents très pieux, de parents chrétiens, qui m'avaient élevé d'une façon très stricte, de sorte que, quant à nos péchés, eh bien, je pouvais pas tellement les énumérer. On disait, Gaston, est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur?
Bien sûr, on me l'avait toujours dit. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Mais je l'avais toujours entendu. Alors, bien sûr, je croyais que Jésus-Christ était mon sauveur, mais je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Et ce qui me troublait le plus comme enfant de chrétien, c'était que mon père était un homme avec ma mère qui attendait le Seigneur tous les jours et qui croyait à l'enlèvement et qui pensait que peut-être eux seraient du nombre de ceux qui seraient enlevés parce qu'ils attendaient le Seigneur d'une façon pratique. Et je me souviens de mes craintes la nuit quand je me réveillais et que j'étais angoissée, que j'allais en chemise de nuit voir si papa et maman étaient encore au lit dans leur chambre parce que j'avais peur que le Seigneur m'ait laissé. Et j'étais tourmentée tout en étant un bon petit chrétien. Mais je n'étais pas régénérée. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Eh bien, il a fallu qu'à 13 ans et demi, j'entende des prédications sur ce qu'était ce péché en pensée. Et quand je me suis rendu compte que Dieu voyait tout ce que j'avais pu penser. Je n'avais pas tué, je n'avais pas volé, je n'avais pas commis adultère, toutes ces choses-là. Je n'étais pas touchée. Et tout à coup, j'ai réalisé que dans mes pensées, il y avait tout cela. Et surtout quand vient la puberté, voilà que tout à coup, eh bien, les filles commencent à prendre une importance pour nous, n'est-ce pas? On fait des études, et puis tout à coup, bien, on voit un grand décolleté, et puis on plonge là-dedans, et ça commence à nous donner des idées, et puis il y a d'autres choses qui se passent à ce moment-là. Et voilà comment ça commence. Puis on entend les conversations des gars qui racontent un tas de cochonneries. Si c'est ce qu'on n'a pas entendu à la maison, puis on entend toutes ces espèces de langages, de sorte que je me souviens d'une gifle que j'ai reçue de ma mère, parce qu'à 11 ans peut-être, j'étais rentrée en disant « je m'en fous de quelque chose ». Paf ! Ce ne sont pas des paroles que tu dois prononcer, etc. Et puis il y avait un texte biblique, bien sûr. Mais, bien sûr, alors on est gardé, on est arrêté par bien des choses. Mais tout à coup, cette nuit-là, où je repassais dans mon cœur ce chapitre 5 du deuxième livre des rois, l'histoire de Naaman le Syrien, et de ce qu'était la lettre, de ce qu'était ce péché, cette petite tache, justement, qui se développe, eh bien, je me suis vue perdue, je me suis vue, moi, le lépreux. Et ce n'était plus parce qu'on disait que j'étais perdue, mais j'étais réellement perdu. J'ai su ce que c'était qu'être perdu. Je me suis dit, mais tu ne pourras jamais paraître devant Dieu si je lis tes pensées. Parce que si le monde connaissait tes pensées, quelle idée est-ce qu'il aurait? Quelle idée est-ce qu'il aurait de moi? Le petit saint? Le bon petit gars? N'est-ce pas? Le con qui fait des fois mon exemple? Non, non, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a convaincu de péché en me montrant que mes pensées étaient souillées. Et que c'est comme ça que ça commençait. On ne vole pas tout de suite, hein, mais on convoite. Puis après, on arrive, on vole. C'est des petites choses d'abord. Et vous pouvez vous-même continuer cela. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que souvent ce que je pensais, j'avais aussi des paroles qui étaient oiseuses. Et puis, mes actions, ben, j'essayais d'obéir, bien sûr, mais... Une autre conviction de péché qui m'a été donnée, c'est toutes les occasions manquées pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché, le péché par omission. Oui. Alors, je savais que j'étais un pécheur, comme je vous l'ai dit, pas un pécheur en peinture, mais un vrai pécheur, non pas parce qu'on me l'avait dit et que tout le monde est pécheur, mais parce que j'étais convaincu par le fait d'être pris de péché. Et alors, Jésus, à ce moment-là, Jésus qui était le vrai sauveur. Et c'est par Ésaïe 53 que j'ai trouvé la paix avec le Seigneur, l'assurance de mon salut. Et cette certitude que c'est dans les meurtrissures de Jésus que j'avais la guérison, que j'étais guéri. Et depuis ce jour, par la grâce de Dieu, il m'a gardé. Mais immédiatement, j'ai compris alors que si c'était vrai tout cela, et si je confessais Jésus, j'avais un témoignage à rendre. Et j'ai demandé ma place, comme on disait dans ce temps-là, à la table du Seigneur. Et c'est pourquoi je vous le disais hier. La Sainte Seine a été pour moi un puissant moyen de me garder du monde et de me garder du péché. Parce que j'avais compris qu'en prenant le pain et le vin, en manifestant ma communion au Seigneur, eh bien, je ne pouvais pas apporter à la table du Seigneur de la souillure. Je ne pouvais pas vivre les 6 jours dans le monde en faisant ce que le monde fait, ou en allant manger à la table des démons, ou prédit Satan, parce que la table du monde, c'est cette table que prédit Satan, où il y a des choses succulentes, des choses bonnes, et puis le dimanche, alors on va à la table du Seigneur. Non, ça a été une puissance pour moi, et c'est pourquoi dimanche après dimanche, eh bien, je me souvenais dans la semaine, tu as confessé ce dimanche que tu étais mort avec Christ. Non seulement que Christ était mort pour toi, mais que tu étais mort avec lui. Et puis, que maintenant tu acceptes de souffrir avec lui. Nous rappelons sa mort, mais nous annonçons aussi son retour. Et il n'y a rien de plus sanctifiant pour nos vies que l'attente constante, journalière, quotidienne, du retour de Jésus. Et tout cela nous est rappelé à la scène. La dimension de la souffrance du Seigneur, la dimension de sa mort, c'est aussi cette dimension, la bienheureuse espérance. Le Seigneur vient, oui, le Seigneur revient. Et alors le monde vous apparaît quand nous sommes au culte d'adoration. Le monde vous apparaît quand nous sommes devant le seul sacrifice du Christ. Nous nous disons, ben voilà, qu'est-ce que le Christ a fait au monde? Il l'a. Et moi, parce que je suis dans ce monde, je voudrais pouvoir régner là où il a été. J'ai compris que je ne pouvais pas être plus grand que mon maître. Et que maintenant, à ce monde, j'étais mort. Ce monde t'a crucifié, mon Seigneur. Eh bien, je suis aussi crucifié pour le monde. Et c'est là notre délivrance. Et il nous attache à sa personne. Mais bien-aimés, ce n'est pas vous-même qui pouvez faire des efforts. Mais laissez le Saint-Esprit, qui une fois qu'il vous a convaincu de péché, vous convainc de justice, que c'est vrai que Dieu a eu la puissance de ressusciter Jésus-Christ, et que cette résurrection de Jésus-Christ est votre propre résurrection. Sa mort est votre mort, et c'est une réalité, et sa résurrection est votre résurrection. De sorte que si vous vivez maintenant, si vous marchez en nouveauté de vie. C'est une vie vraiment nouvelle. Et croyez-le bien, nous ne sommes plus sous la loi maintenant. Du « tu dois » et « tu ne dois pas », par la grâce du Seigneur, qui est aussi son œuvre. Il a accompli la justice de la loi en mourant, de sorte que nous ne sommes plus sous la loi. Lui qui avait pleinement accompli la loi est mort pour nos péchés, pour ces transgressions que nous avions commises, de sorte que nous aussi maintenant nous sommes morts à la loi. Et j'ai saisi ce que c'était que la grâce. Nous vivons maintenant de la grâce de Dieu. Et je demande au Seigneur que personne ici ne puisse oublier cette grâce de Dieu. Nous vous l'avons dit là au commencement, qu'est-ce qu'un chrétien? Oui, l'origine du mort, c'était à Antioche. Ce sont les disciples du Christ qui ont été nommés chrétiens par le monde, parce qu'on a vu le changement dans ces vies. Pour quelle raison? Ils avaient entendu la parole, ils avaient cru au Seigneur Jésus, ils s'étaient détournés du monde pour glorifier le Seigneur. Et quand Barnabas est venu depuis Jérusalem pour voir ce qui se passait, combien maintenant des gens qui veulent venir des vieux pays pour voir ce qui se passe au Québec, parce que les nouvelles du Québec sont tellement triomphalistes, c'est tellement fantastique ce qui se passe au Québec, il y a des gens maintenant qui veulent venir voir le réveil des Québécois. Eh bien, qu'ils viennent à nous assembler et qu'ils voient toute cette transformation et qu'ils verront vraiment la grâce de Dieu. C'est ce que vous lisez dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres. Quand Barnabas et Paul sont venus, ils ont vu la grâce. Ayons vu la grâce de Dieu. Est-ce qu'on voit la grâce de Dieu dans vos vies? Vous dites, mais je suis sauvé par grâce. Vous êtes sauvé, d'accord. Vous avez cru au Seigneur Jésus, c'est pas par les œuvres. Mais est-ce qu'on voit maintenant la grâce qui vous a sauvé? la grâce de Dieu qui est apparue à tous les hommes et qui nous sauve, c'est ce qu'elle fait ensuite. Elle nous enseigne. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais la grâce nous enseigne comment vivre dans ce présent siècle et à trois choses. Tite, chapitre 2, verset 11, elle nous enseigne à vivre dans ce présent siècle sobrement, dans la sobriété quant à nous-mêmes, justement, dans nos relations avec les hommes, dans la justice, préférant subir les injustices que d'en faire subir. Voilà ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Et puis, elle nous enseigne une troisième chose, dans nos relations avec Dieu, à vivre pieusement. C'est la piété. C'est une relation personnelle et vivante avec le Seigneur. Et quand on voit la grâce de Dieu, on voit cet enseignement vécu dans chaque individu et cet enseignement vécu dans la communauté qui est formée de ces individus sauvés. C'est pas simplement une autre église. Avant j'étais catholique, puis maintenant je suis évangélique. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change? Vous avez changé de chemise. Mais c'est pas changer de chemise. C'est changer de vie. Et c'est avoir vis-à-vis de ces catholiques dont vous faisiez partie un témoignage autre que de la rancœur contre eux. Parce que vous dites, nos parents ne nous ont pas instruits dans la vérité. Quand vous êtes vraiment sauvés par grâce et enseignés par la grâce, une des premières choses que fera un converti, c'est d'aller demander pardon à son père catholique ou à sa mère catholique pour tout ce qu'il était avant. Il n'ira pas commencer par lui laver la tête et lui dire, dans ton église, il y a des erreurs, maintenant, moi, je suis dans la vérité. Le premier enseignement de la grâce, c'est honore ton père et ta mère. Et ne crachez pas dans le puits où vous avez vu. Tout n'était pas faux dans cette église. Et cette église a conservé certaines vérités. Et aujourd'hui, il faut peut-être que ce soit un Jean-Paul II qui ose encore être contre l'avortement. Et oser le dire. Il faut peut-être que ce soit des hommes comme cela qui mettent en garde aussi contre la pilule et d'autres choses. Parce qu'il n'y a plus cette foi. Parce que cette question des naissances maintenant, c'est plus l'affaire de foi. Il faut planifier tout cela. Bien sûr, on connaît tout ce qui se passe dans le monde. Mais je suis convaincu que si nous retrouvions cette foi vivante, on saurait demander des enfants au Seigneur. Et il saurait nous les donner. Et s'il ne veut pas que nous en ayons, lui saurait aussi fermer la matrice. Car c'est lui qui le dit dans sa parole. Moi qui ouvre la matrice, moi qui ferme. Mais nous n'avons plus ce contact intime, cette relation personnelle. Alors évidemment, si vous n'avez pas, prenez tous les moyens possibles, si vous ne voulez pas d'enfants. Moi, je ne vais pas vous mettre sous la loi. Mais je vous dis qu'il y a d'autres moyens que les conceptions du monde pour la contracter. Non, je vais faire un jeu de mots. Il y a d'autres moyens. Et quand on retourne à la parole, et qu'on a une vie de foi, et qu'on se laisse discipliner par le Saint-Esprit, et ne pas faire du mariage le port pour satisfaire tous les appétits de la chair, mais quand on est contrôlé par le Seigneur dans ce domaine aussi, ce domaine sexuel, eh bien, il y a une vie heureuse, une vie paisible. Mais voilà, nous lisons un tas de bouquins sur l'amour, même écrits par des gens pieux, toutes espèces de choses. Et puis, nous ne sommes plus vraiment en contact avec la parole. C'est pourquoi je vous en supplie. Redécouvrez l'enseignement du Seigneur. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et l'amour du Père, je le répète, c'est une personne. Alors, est-ce que cela est du Père, ou est-ce que cela est du monde? Si ce n'est pas du Père, c'est du monde. Et puis vous savez que c'est convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela vient du monde et le monde passe, c'est ça qu'on voit dire. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je suis aussi convaincu que si nous revenions à cette foi primitive, un salut par la foi, qui nous fait commencer à vivre une vie de foi, parce que nous sommes sauvés par la foi et pour la foi, afin que le juste vive une vie de foi. Aujourd'hui, après X années de conversion, une journée de foi sans être renouvelée, la foi ne nous met pas dans un état statique, mais dans un état dynamique. Et cette foi est susceptible d'augmenter. Elle est petite au commencement. Mais même les disciples disaient, Seigneur, augmente-nous la foi. Et tant qu'on n'a pas la foi pour certaines choses, eh bien, prenez les moyens du monde. Mais pensez que peut-être le Seigneur pourrait vous donner d'autres moyens. Et demandez-lui, Seigneur, une foi plus grande, qui vous délivre d'une hantise, qui vous délivre d'une crainte. Et sous l'action du Saint-Esprit, tous ces ennemis que vous découvrez dans votre cœur, et qui doivent être détruits, eh bien, jugez-vous quotidiennement de toutes ces tendances naturelles. Pour les uns, c'est cette incrédulité. Oh, je suis croyant, mais sur bien des choses là, alors je ne me fie pas à la parole. Je me fie plutôt à la médecine, je me fie plutôt à la médecine. Je suis plutôt au conseil du psychologue, ou du technicien. Vous les connaissez tous ces chrétiens, cherchez la vérité. Chez des gens qui ne sont pas même des croyants. Et c'est quelque chose de dramatique. Alors on ne sait plus ce qui est noir, on ne sait plus ce qui est blanc, on voit gris. À force de mêler le noir et le blanc, c'est gris. Ils ne font plus de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Entre ce qui est impie et ce qui est pieux. Oh, l'homme pieux a disparu. Mais Dieu sait encore se montrer puissant auprès de l'homme pieux. Et l'homme pieux, bien voyez-vous, il aura ses bénédictions. Elles sont là et c'est pourquoi vous me direz, vous nous avez tanné de nous relire ce passage. Vous n'aviez pas grand-chose à nous dire, parce que vous soyez toujours comme Dieu là-dessus. Oui, il paraît que samedi soir, on a dit que j'avais rien à dire. Parce que je me basais sur le livre. S'il est ce livre, qu'il nous dise vraiment ce qu'il a à nous dire. Non! Non, non, et c'est un compliment qui a été fait, samedi soir, que je n'avais rien à dire. Parce que non, c'est vrai, je n'ai rien à dire. C'est lui qui a tout à vous dire. Dans la main. Alors, prenez Dieu au sérieux. Et lui aussi ne vous prend pas au sérieux. Vous le croyez? Mais quand on ne prend pas Dieu au sérieux, vous ne pouvez pas vous attendre. Juste les petites prières. Les petits moments de culte où on est une heure dans le recueillement. Une vie avec Dieu. Une redécouverte de Dieu. Dieu est Dieu. Oh, quel succès. Et alors je comprends que lui seul doit être adoré. Le temps j'entends les gens parler, même des chrétiens. Oh, j'adore ça. Pas de nous adorons tout. On ne peut plus dire qu'on aime, c'est qu'on a une tendance de famille. Maintenant, on attend. Ce sont des mots qui doivent être bannis de notre vocabulaire. Et cela, on vous l'a enseigné déjà dans votre premier catéchisme. Un seul Dieu, tu adoreras avant la nouvelle catéchèse. De sorte que vous êtes responsable. Tout n'était pas faux. Alors gardez ce qui était juste. Et pensez que vous avez été une mère, que vous avez été un père qui, malgré leur peu de lumière, ont vécu peut-être d'une façon plus remarquable, plus simple que vous, qui vous êtes laissé prendre par tous les courants de ce siècle. Et si le Seigneur vous a arrêté dans ce présent siècle, et que vous vous êtes converti à lui, eh bien, devenez humble. Et continuez de prier avec un respect pour vos parents. Et plutôt que de les assassiner avec des versets bibliques manifestés dans votre vie, un tel fond de voir eux vivant la raison de l'Esprit. vieil temple. Et vous verrez des miracles. Et nous verrons des familles entières se tourner dont une femme a vraiment l'attitude qu'elle doit avoir selon l'écriture pour son mari incroyant, eh bien, sans parole qu'il est dit, elle pourra sauver le travail que sera, mais sans parole. Vous assassinez votre mari, ça sera votre mari. Vous faites monter la fièvre dans votre ménage avec vos versets bibliques, qui a tort et à travers. Alors que le mari vous observe, elle ne vous voit pas faire ce que cela, malgré toute présence de nouveaux et de nouveaux amis. Ils sont aussi observés. Hein? Parce que le monde nous observe. Tout le ciel nous observe. Et puis vous savez, il y a un film qui nous sera montré. Manifesté dans votre vie. Un tel changement, que ce soit eux qui vous demandent la raison de l'espérance qui est en vous. Et vous verrez des miracles se produire. Et nous verrons des familles entières se tourner vers le Seigneur. Quand une femme a vraiment l'attitude qu'elle doit avoir selon l'écriture pour son mari incroyant, eh bien, sans parole qu'il est dit, elle pourra sauver son mari. Le travail se fera. Mais sans parole. Vous assassinez votre mari. Ça sera mal. Vous faites monter la fièvre dans votre ménage. Avec vos versets bibliques, cités à tort et à travers. Alors que le mari vous observe, elle ne vous voit pas si simple que cela. Malgré que vous fréquentez un nouveau milieu et de nouveaux amis. Ils sont aussi observés. Hein? Parce que le monde nous observe. Tout le ciel nous observe. Et puis vous savez, c'est un film qui nous sera montré de tout ce que nous avons été. Est-ce que vous savez que nous devons donner à connaître, non seulement au monde, mais aux principautés qui sont dans les lieux célestes, que nous avons une autre vie, que ce n'est plus l'impulsion de la chair qui nous conduit, ce troisième ennemi, que je cite en passant, notre frère en a parlé avec force hier soir, je n'ai pas besoin d'insister, les textes vous ont été donnés, vous les repasserez devant vos cœurs, j'ai lu avec intérêt que plusieurs prenaient hier soir, pendant la réunion de notre frère, des notes, des références bibliques, et vous verrez que la chair, sa seule place, c'est où? À la croix. La chair de Jésus a été crucifiée, notre chair ne peut pas être à une autre place que là où Jésus a été crucifié. Et c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui met la chair à la croix. C'est le Saint-Esprit qui met la chair dans la mort. Ce n'est pas nous qui pouvons lutter contre la chair, nous sommes toujours vaincus parce que la chair est faite. Mais quand le Saint-Esprit, qui ne revêt jamais la chair, le Saint-Esprit ne glorifie pas la chair. Le Saint-Esprit crucifie la chair. Mais manifeste alors en nous la vie d'un autre. La vie de qui? De l'homme nouveau. Le vieil homme est crucifié. Notre ancienne manière de vivre est crucifiée. Puis nous n'allons pas déterrer mort le cadavre. Mais nous laissons le nouvel homme grandir en nous. Et tout le travail d'édification dans la communauté chrétienne, c'est justement d'édifier les âmes, de construire les âmes, de faire des hommes et des femmes qui soient vraiment d'authentiques chrétiens. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Le dernier ennemi qui sera vaincu. C'est la mort. C'est par la mort que Jésus nous donne la victoire sur ses trois premiers ennemis. Mais sa mort aussi a déjà, pour nous, le sens de la victoire définitive sur la mort. Si réellement vous laissez le Saint-Esprit crucifier votre chair, ce Saint-Esprit qui habite en vous vivifiera vos corps mortels aussi. Nous savons que la mort pour nous ce n'est pas la fin de tout. Nous savons que si nous devons mourir, nous nous endormons dans le Seigneur en vue de la résurrection. Et ce n'est pas même la mort que nous attendons, parce qu'il y a une génération en tout cas qui ne verra pas la mort et qui sera transmuée. Nous attendons du ciel Jésus. Si nous sommes nés d'en haut, notre patrie est en haut. Nous attendons du ciel Jésus qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, par ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, mes amis, en ayant cette espérance, oui, on peut tout souffrir dans la chair, parce que la chair crucifiée, peut-être ça fait mal. Mais le Christ a souffert, lui, dans la chair. Et moi, je n'accepterai pas d'être formé aussi, éduqué par la souffrance. Joseph, avant de régner en Égypte, a été humilié par la souffrance. Lisez les psaumes, mais vous verrez ce qu'il est dit de Joseph. Jusqu'à ce que la parole de Dieu accomplisse en lui son œuvre, il a été éprouvé. Alors, il y a toujours ce chemin, l'humiliation, la confession de notre misère, de notre néant, et puis l'acceptation de la volonté de Dieu. Quelles que soient les souffrances qu'il m'envoie, je sais qu'il n'enverra pas au-delà de mes souffrances. Et maintenant, alors, je suis délivré de la crainte de la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui avaient peut-être un bon témoignage, qui ont eu une chute, et qui n'ont pas achevé leur jour? Comme il l'est dit, il y a la quatrième bénédiction, la longévité. C'est parce qu'il ne pouvait plus être témoin. Il vous a été cité Nadab et Abihu, qui ont été retranchés, sont pas perdus, mais ils n'ont plus pu servir Dieu. Ils n'étaient plus au témoignage. Alors, c'était un péché qui conduisait à la mort. Il y a des péchés qui conduisent à la mort. C'est tout un sujet qu'on pourrait étudier. Il y a des péchés qui conduisent à la mort. À la mort du corps. On peut être retranché. Voulez-vous arriver jusqu'à la fin de vos jours? Eh bien, la fin de vos jours qu'il vous a donné, Seigneur, vivez en lui. Et vous aurez encore cette longévité. Vous connaissez encore cette puissance qui vous délivre de maladies qu'on a pu croire incurables. J'en avais une, et je suis encore là, à 67 ans, puis j'ai un temps qui voulait savoir cet âge épouvantable. Et que je pouvais avoir ce vieillard. Eh bien oui, j'aurai 67 ans le 19 septembre. Ça vous change. Je suis un enfant de la révolution. 1917, c'est la révolution russe. Et c'est encore une grâce que je ne sois pas né en Russie à ce moment-là, parce qu'on m'aurait donné le lait du marxisme à boire. Et au lieu de prêcher l'évangile, peut-être que je prêcherais l'évangile de Marx, un autre juif à ce moment-là. Mais c'est pas Jésus. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée. Et alors, si j'apprends maintenant à me juger quotidiennement de toutes mes tendances, je ne laisserai pas ces voiles me séparer du Seigneur. Parce que voilà ce qui arrive. C'est les dernières choses que je voudrais vous dire. Quand vous péchez, parce que nous péchons encore, nous avons des mauvaises pensées ou bien nous avons une parole de Dieu, mais le Saint-Esprit nous reprend, il est une personne sensible en nous. Eh bien, automatiquement, il y a un coup de cloche. On sent très bien que ce n'est pas juste ce que nous avons fait. J'ai une pensée de jalousie. Alors, je m'en juge. La jalousie, c'est une mauvaise pensée. Le Seigneur ne la tolère pas. J'ai été jaloux de mon frère alors que je devrais bénir le Seigneur parce que mon frère, c'est un membre de mon corps. Si mon frère a plus de dons que moi, je dois m'en réjouir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi? Alors, je me juge de cette pensée, parce que si je m'en juge pas, ça me fait un petit voile entre moi et le Seigneur. Mais on voit encore très bien à travers le judo, c'est un petit voile de base. Mais voilà qu'une heure plus tard, j'ai une pensée d'orgueil. Et je ne m'en juge pas. L'orgueil, c'est de Satan. Alors, c'est donc petit voile de base. Mais on voit encore à travers les deux voiles de gaz, hein. Puis on continue. Et puis après, voilà, ben, on est dans ce monde, j'ai eu un second regard. Un second regard pour une femme. Justement. Le premier, bien sûr, elle se montre des fois d'une telle façon qu'on n'est pas étonné que les gens du monde les violent. Mais nous aussi, on n'est pas de chair, on n'est pas de bois, on est de chair. Alors, c'est pas le premier regard, vous ne pouvez pas vous empêcher. On passe dans ce monde, il y a du péché partout. Mais c'est quand mon regard va une seconde fois la chose. C'est ça que ça commence. Le second regard, non pas de Radio-Canada, mais le second regard. Votre second regard devient déjà péché. Et vous ne vous êtes pas jugé de ça. Alors, troisième petit voile de gaz. Puis vous pouvez continuer. Et le soir, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans un sac. Vous êtes dans un sac. il n'y a plus de communion. Alors vous devez faire la grande confession au jour des balades. Ou bien alors, mes amis, si le Seigneur a eu pitié de vous et vous a donné du temps pour vous juger et ne vous a pas retranché à cause de tout cela et que vous continuez de vivre, vous arrivez à la fin de vos jours. Et c'est pourquoi il y a tant de vieillards chrétiens qui meurent en doutant même de leur salut, après avoir même annoncé l'évangile, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, parce qu'on ne s'est pas jugé de nos tendances, peut-être à la Marie, parce qu'on était avare. Cet homme qui avait mis 60 000 francs suisses dans un tableau, derrière ce tableau, il était mis le sang du Christ me purifie de tout péché, et il avait caché derrière 60 000 francs. Sagesté de source certaine. Et quand le pasteur est venu pour lui parler, ça se passe à Zurich en Suisse, cet homme lui a dit, moi, je connais Dieu depuis longtemps, et vous voyez bien mon tableau là, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché, je veux même qu'on le mette dans mon cercueil, je n'ai pas besoin de vos exhortations. Vous voyez, il est mort deux jours après. Puis on s'est souvenu de ses dernières volontés. Qui voulait qu'on mette le tableau dans le cercueil. Et ensuite, eh bien, ça se passait encore dans les maisons. Alors, les pompes funèbres reçoivent l'ordre de décrocher le tableau puis de mettre dans le cercueil. Mais le cadre était un peu trop grand. Alors, il fallait mettre au moins le texte. Alors, on a dû enlever le cadre. Et qu'est-ce qui est tombé devant tous? 60 000 francs. Heureux héritier. Mais à qui voulait-il aller? Au verre. Il prenait cela avec lui. Aucun cupide, aucun avare n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est pas de mettre un texte biblique dans vos maisons qui font de vous des chrétiens. Vous pouvez en mettre même juste dans vos toilettes. J'ai déjà vu de ces textes dans les toilettes. À vous faire soupirer, sinon à vous constiper. Directement. On ne peut plus. Je suis tellement spirituel que même dans les toilettes. J'aime encore mieux bien faire et laisser brève. Vous aurez aidé, c'est un drôle de bonhomme. Il nous a même fait rire. Mais oui, parce que Dieu a de l'humour. Mais il est saint aussi. Mais lui aussi se rira de certains. S'ils se sont moqués de lui sur la terre, il se rira d'eux. C'est pourquoi, mes amis, je voudrais que vous soyez de ceux qui auront reçu la parole. Et que mon âme puisse bien se porter, mieux se porter, où je serai jamais parfaitement tranquille, sinon dans la confiance que la parole de Dieu ne retournera pas au Seigneur sans avoir produit son effet. Mais qu'on ne dise pas, oui, il a parlé, il a dit ceci, il a dit ça, mais c'est fécité. Il est vieux, je... Alors que pourtant vous aviez pu croire que j'étais de bon. C'est pas ça que je suis, c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est le Seigneur qui me juge. Et bien que la grâce du Seigneur nous soit donnée. Merci à Rose de Tri, merci à notre sœur Perdu, merci à tous ceux qui, que je nomme pas par les noms, qui ont organisé cette rencontre pour vous et qui m'ont fait encore une fois confiance pour que je puisse être un des porte-parole de cette conférence. Ô Dieu notre Père, nous venons à toi à la fin de cette heure et nous te demandons toi-même de nous rappeler les vérités que nous n'avons fait qu'ébaucher. Et dans ton amour, nous puissions sortir de ce lieu, non comme nous y sommes entrés, mais éprouvons dans nos cœurs que c'est vrai, que tu veux nous changer, nous transformer à ton image. Et ce que nous savons, c'est que rien n'est plus précieux pour nous réveiller, rien n'est plus précieux pour nous sanctifier, rien n'est plus précieux pour nous consoler. D'attendre. Ce n'est pas la mort que nous attendons. Si nous devons mourir, nous savons que nous restons à cause de ta victoire, par la puissance qui t'a fait ressusciter dans tes morts. Nous aussi, nous aurons un corps de résurrection. Mais ce n'est pas les humiliations du sépulcre et du tombeau que nous attendons. C'est Jésus sur les nuées du ciel. Et nous voulons proclamer que nous croyons encore à son retour. Que nous croyons encore à cet enlèvement, mais nous ne voulons pas que ce soit un enlèvement de déchets. Nous voulons te demander que que ce soit l'enlèvement de ceux qui auront témoigné pour toi la réalité du salut, du si grand salut que tu nous as apporté en Jésus-Christ, auquel soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles.